J'ai pensé entre les deux séances, celle de la dernière fois et donc celle de ce soir, qu'il fallait peut-être que je fasse un petit point parce que j'ai beaucoup craint, on vient d'en parler avant la séance, d'avoir proposé, disons, un raisonnement trop tendu ou trop complexe ou trop vite dit la dernière fois. Et que ça appelait donc une sorte de petite mise au point. Alors, en deux temps, en deux moments. Alors, premièrement, alors vous êtes là, et au fond, ce que je vais dire, ça serait plutôt pour ceux ou celles qui ne sont plus là qu'il faudrait le dire. Mais je crois bon de préciser que, dans mon esprit en tout cas, ce que j'aurais essayé de vous proposer l'année dernière et cette année, ça n'est pas un cours, mais c'est un séminaire. Ça veut dire dans mon esprit que je cherche moi-même des formulations pour ce que j'essaye de penser. Je cherche des formulations, je ne les ai pas déjà. Et je cherche des formulations qui ne soient pas elles-mêmes de l'ordre d'un cours possible, un enseignement possible, c'est-à-dire je cherche des formulations qui ne sont pas déjà connues, y compris de moi-même. Évidemment, quand je commence une séance, j'ai préparé, j'ai des phrases sous les yeux, mais quand je fais la préparation de la séance, je ne les ai pas forcément. Je viens de les chercher, d'une certaine manière, ces phrases. Elles ne sont pas de l'ordre donc du connu, elles ne sont pas de l'ordre de l'enseignable déjà. Et donc, en fait, elle s'appuie sur des doutes, sur beaucoup de doutes, sur de l'interrogation, sur pas mal d'interrogations, et je dirais, de toute manière, sur une distance quant à ce qu'on sait déjà. Et c'est la même chose pour vous, j'imagine, c'est-à-dire qu'à certains moments, vous devez vous demander, mais d'où ça sort tout ça? Comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut admettre ça? Alors, si c'était des connaissances transmises, le principe de l'enseignement, c'est que ça va de soi. On fait passer des choses qui sont en principe hors de doute installées dans la connaissance. Là, nous sommes dans un séminaire, ça n'est pas le cas. Donc, il est possible, il est bien probable qu'il y ait dans toutes ces phrases que j'essaye de vous adresser. Des formulations discutables ou encore pas suffisamment clarifiées, donc qui peut expliquer peut-être que au fond un séminaire risque toujours en tout cas d'avoir quelque chose de décourageant. Voilà. Alors j'espère quand même que on va pouvoir continuer au moins à quelques-uns dans cette espèce de recherche. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que peut-être il faut que je fasse une espèce de reprise. Je pense que la dernière séance était particulièrement difficile à un moment donné, en tout cas. Je pense que c'était trop concis. Je m'en suis rendu compte. D'ailleurs, c'est à ça que sert justement la dimension séminaire que je viens de rappeler. À voir quand est-ce que l'argumentation est trop rapide, pas suffisante, etc., pas assez développée. Bon. Donc, je vais reprendre rapidement ce soir, au fond, ce qui est le propos, la ligne, s'il y en a une, du séminaire de cette année, qui aura été la ligne du séminaire de cette année, je m'en rends compte, désormais. C'est que la question que je me pose, que j'essaye de vous faire vous poser avec moi, c'est qu'est-ce qui peut faire, je l'ai formulé comme ça, réflexion faite, qu'est-ce qui peut faire des champs où la vie sociale s'étend un espace? Voilà. Je pense que c'est ça la question. L'an dernier, j'étais resté sur une proposition qui consistait à remarquer que dans un texte d'Hannah Arendt, où le mot espace est régulièrement mis en jeu pour parler de la différence espace privé, espace public, elle ne dit pas, le fait est, peut-être une sorte de lapsus, mais le fait est qu'elle ne disait pas espace lorsque lui venait sous sa plume le mot social. Hein. Donc je m'étais accroché d'une certaine manière à ça. Et donc je me pose la question que la société est peut-être plutôt pensée d'abord comme un environnement, comme un milieu de vie, que à proprement parler, si cette expression convient, comme un espace. Et je me pose pour cette année, je me posais pour cette année la question, qu'est-ce qui peut faire, donc je la formule comme ça désormais, qu'est-ce qui peut faire des champs où la vie sociale s'étend, et je préciserai même maintenant, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, qu'est-ce qui peut faire des champs où la vie sociale étend ses équipements. J'y reviendrai peut-être pas cette fois, peut-être la prochaine fois, en disant finalement, la première présence à nous du social, c'est d'être un ensemble d'endroits équipés, où il y a des équipements. On pourrait presque dire de quoi faire avec des choses, des machins, bon, des équipements. Donc, qu'est-ce qui peut faire des champs où la vie, je ne dis pas espace, parce que justement, il s'agit de savoir si ça peut être espacé. Qu'est-ce qui peut faire des champs où la vie sociale étend ses équipements? Un espace. Voilà la question du séminaire de cette année. Qu'est-ce qui peut faire que le social, au lieu de s'étendre, s'espace? Autre manière de dire la même question. Je vais le dire comme ça plus simplement. J'en suis venu à penser, après lecture d'un certain nombre de textes, dont tout particulièrement celui d'Arendt, que ce qui est advenu avec ce qu'elle appelle Arendt les temps modernes, c'est une extension de la dimension sociale de l'existence humaine. Et je prends ce mot extension au pied de la lettre. Hein, ça s'étend. Voilà. La société a étendu ses équipements dans le monde. Quelque chose de l'ordre du social s'étend de plus en plus, y compris, bien entendu, matériellement. Donc, qu'est-ce qui peut faire que le social, est-ce que c'est possible que le social, au lieu de s'étendre, s'espace? Alors, la proposition concise, trop dense, difficile, qui était dans mon esprit au sein de la précédente séance, c'était de dire que pour que la société, que le social plutôt, s'espace, il faut qu'on puisse y être passant. En fait, c'est pas seulement la dernière fois que j'ai évoqué cette proposition, c'était dès la deuxième séance de cette année. Qu'on puisse y être passant, je précise, qu'on puisse, alors il y a une version simple de cette phrase-là, qu'on puisse y passer. Voilà. Qu'on puisse y passer, ça sous-entend sans doute, je suis encore pas sûr, qu'on n'y reste pas. Que la condition, ça serait ça, c'est ça que je cherche à préciser, la condition pour que le social s'espace, ça serait qu'on puisse ni être que passant, ni faire que passer, c'est-à-dire que ça ne nous absorbe pas de façon majeure, voilà, qu'on puisse y être passant, et même, alors je précise, cette fois en étant plus proche de la dernière séance que des précédentes, qu'on puisse y être un passant, chacun d'entre nous passant, non pas se défendant par une sorte de distraction symptomatique. Je pense que c'est ce passage sur le symptôme il y a 15 jours qui a pu décourager un certain nombre de mes auditeurs. Non pas donc on puisse passer dans les champs sociaux, non pas en qu'on y passe en passant, mais pas en passant. Première interprétation de la notion, si on lit Benjamin, en passant qui se défend d'une manière symptomatique, c'est-à-dire qui produit des symptômes de défense à l'égard de quelque chose qui le choque, qui l'agresse. Alors, je prends un exemple très simple. C'est moi, dans le métro à Paris, qui essaye de ne pas voir ce que je vois, de ne pas entendre ce que j'entends, de ne pas sentir ce que je sens, etc. Je me distrais de ça comme je peux, autant que je peux, et je produis une espèce de symptôme que chacun d'entre nous connaît bien, le regard dans le vague, regardant pas vraiment, jamais vraiment quelqu'un, alors que si j'étais dans une situation de vie privée, je regarderais des gens dans les yeux. probablement, nous nous regarderions, nous nous ferions face, etc. Bon, nous aurions une toute autre allure. Donc il y a cette version-là du passage et du passant qui se défend symptomatiquement de l'encombrement social qui lui occupe trop, dans une certaine mesure, le champ perceptif. Voilà. Pour que la société ou que le social s'espace, voilà la proposition du séminaire de cette année à réfléchir. Il faut pouvoir y être passant. J'ai cru pouvoir lire ça chez Benjamin. Non pas donc passant symptomatique, non pas passant se défendant contre ce qui lui arrive à la perception, mais passant hautement distrait, pour reprendre un adverbe qui est dans la traduction du texte de Benjamin. Alors, c'est pas hautement distrait, c'est quand il parle de la haute conscience dont Baudelaire serait le témoin majeur dans la ville capitale du 19e siècle qu'était Paris. Donc je colle, si vous voulez, c'est la proposition de recherche du séminaire, deux morceaux d'expression de Benjamin, et je fais cette proposition. Finalement, chez Benjamin, il y a l'idée qu'il y a deux sortes de distractions. L'une est une défense symptomatique et l'autre est une haute distraction qui correspond à l'attitude poétique, etc., sur laquelle je vais revenir ce soir ou cette fin d'après-midi. Donc, la condition pour que le social s'espace serait là, qu'on puisse y passer en passant hautement distrait, je fabrique cette expression pour nous, voilà, hautement distrait, passant, provoqué à cette haute distraction par ce que j'ai appelé la dernière fois des cas de poème. Voilà. Alors, jeu de mots, poème, poiein en grec, ça veut dire faire, fabriquer, hein. Donc, j'entends par poème ici un sens très, très large. C'est pas seulement, ça va l'être aussi, vous allez voir, les poèmes de la poésie au sens, relativement banal du terme, mais les poèmes en général, c'est-à-dire des choses faites, poiein, fabriquées d'une certaine manière, et telles que, je viens de prendre ce verbe, je le répète, qu'elles provoquent les passants à cette haute distraction qui est peut-être qui serait le témoin du caractère spatial des milieux sociaux. Hein. Donc c'est ça que je cherche à définir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut, je vais dire le mot dans quelques minutes, poser dans le monde ou redire le mot dans quelques minutes pour que ça provoque chez le passant cette haute distraction? Concept que je fabrique en collant deux passages de texte de Benjamin. Comme on n'est pas nombreux et que je vous vois tous à l'image, est-ce que je peux vous demander si ce que je viens de vous dire vous semble clair? Ah bon, alors voilà, je peux y aller. Donc,
oui, tu peux y aller. Oui.
Alors, je vais reprendre la toute fin de la séance précédente, pour lancer celle de ce soir et pour en même temps raccorder à ce que je viens de dire. Donc, j'ai bien conscience que tout ce discours que j'essaye de tenir est complexe, mais je me défendais, c'est le cas de le dire, la dernière fois, en disant, mais le discours de Benjamin, le texte de Benjamin sur lequel, au fond, je m'appuie, aussi magnifiquement écrit soit-il, n'est pas moins complexe lui-même. Hein, c'est-à-dire que les notes sur quelques thèmes baudelairiens, c'est un sacré texte. Il faut démêler ça avec beaucoup de précision et, j'allais dire, de doigté, puisque je parle de démêler. Hein, faut tirer les fils avec précision. Alors, je tente de simplifier ma lecture de Benjamin, j'ai tenté de simplifier ma lecture de Benjamin en disant que il nous propose, en fait, je viens de le redire d'une certaine manière, deux états de distraction dont l'un est poétique, est dit par lui poétique et associé par lui à une qualité poétique, et l'autre, en revanche, ça n'est pas dit comme ça dans le texte de Benjamin, c'était mon interprétation, je viens de la rappeler, et l'autre est symptomatique et en tant que tel propre à une conscience qui se défend qui se protègent et qui, au fond, se défendant et se protégeant, se restreint. Voilà. En revanche, la distraction poétique, l'état poétique, le mode poétique de la distraction, a quelque chose d'exceptionnel. Le mode symptomatique, en revanche, est banal dans l'époque, répandu dans l'époque. C'est sans doute ce qui fait que dès qu'on essaye, comme j'essaye de faire, de définir ce que pourraient être les choses à faire pour provoquer la haute distraction, on est bien obligé dans ce cas-là de dire quelque chose qui n'est pas banal. Voilà. Ça n'est pas banal dans l'époque. Le banal de l'époque, c'est qu'on soit en train de se défendre contre le monde social lui-même. Bon. Donc, dire qu'il est banal d'être dans un état symptomatique, c'est dire que nous sommes... j'embraye là sur une séance qui n'a pas eu lieu, qui est lisible et qui n'a pas eu lieu l'année dernière, dire que l'attitude la plus banale de l'époque, c'est d'être symptomatiquement distrait, c'est dire que on n'a pas de l'état même dans lequel on se trouve, ce que, je vais y revenir ce soir, il me semble, on pourrait appeler, à proprement parler, un sentiment. C'est-à-dire que le passant ordinairement distrait dans les champs sociaux d'aujourd'hui, il n'a pas le sentiment de sa distraction. La haute distraction que j'essaye de définir, en revanche, elle se lie, je vais la lier, ça n'est pas le texte de Benjamin, c'est mon travail pour ce soir, je vais la lier donc à ce mot-là, sentiment. Il y aurait donc deux distraits, alors je vais utiliser une phrase qui pourrait être assez vulgaire, il y a le distrait qui se sent pas, distrait, et il y a le distrait qui sent, qui est dans le sentiment de la distraction. Il me semble qu'il y a quelque chose à penser là, qui n'est pas explicitement dans Benjamin, mais que je peux, je crois, penser à partir de Benjamin, si en plus je le colle, comme je vais faire ce soir, à d'autres textes, en particulier les textes d'architectes, en particulier le texte de Louis Sullivan, dans lequel se trouve la fameuse phrase « Form is our fellows function ». Donc l'esprit hautement poétique parvient, lui, à traduire son sentiment, le sentiment ou la sorte de sentiment qui peut lui venir dans un monde où le social s'étend. Ou pour être plus juste, l'esprit hautement poétique ou hautement distrait parvient à déposer des poèmes dans le monde. Poème, ça veut dire à la fois objet, artefact et œuvre. Donc, l'esprit dont j'essaye de définir l'esprit, c'est celui qui parvient à déposer dans le monde des poèmes qui sont à la hauteur de l'expérience qu'il fait, c'est-à-dire des poèmes qui ont pour qualité d'être eux-mêmes distraits, tiraillés, étendus. Donc, c'est ça que je vais essayer de définir ce soir. Qu'est-ce qu'un poème ou qu'est-ce qu'une œuvre distraite, elle-même distraite, tiraillée, étendue, correspondant dans sa distraction même à la distraction mentale ou spirituelle que j'essaye de définir. Donc, que sont ces poèmes, qui seraient les poèmes à faire pour que le champ social devienne cet espace, devienne un espace? Alors, réponse globale que j'avais formulée rapidement la dernière fois, ces poèmes relèvent d'un mode du faire œuvre dont je vais tenter de généraliser l'appellation que je viens au fond d'en donner. Il s'agit à terme de déposer quelque chose quelque part. Il s'agit de déposer des choses quelque part. Que fait le poète dont je cherche à définir le travail? Première proposition de définition, il dépose des poèmes. Il dépose des choses, des œuvres, des artefacts. Voilà. Et donc, ce qui nous est suggéré, c'est de réfléchir à la façon de poser les choses que nous faisons. Peut-être que le poète générale que j'essaye de définir, c'est quelqu'un qui sait, enfin, qui sait, c'est pas le bon verbe, le fait est que celui-là ou celle-là pose des choses. Voilà. Et c'est ça que je voudrais préciser. De quoi s'agit-il dans cette pose? De quelle chose s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que des choses convenant à cette pose, des poses que j'essaye de définir avec les enjeux que je viens d'essayer de rappeler. Donc, je commence la séance de ce soir, il est bien temps, en disant que, au fond, nous avons devant nous deux tâches. Définir de manière générale la notion de poème urbain et, deuxième tâche, justifier la notion de sentiment, puisque je viens de le rappeler, j'ai essayé de lier les choses. Le poème urbain que j'essaye de définir, c'est quelque chose qui provoque au sentiment hautement poétique de la distraction. Alors, commençons par le poème urbain. Et pour ce commencement lui-même, puisque je suis en fait pour une grande part un propos de Benjamin figurant dans un texte globalement consacré à Baudelaire, voyons du côté de ce poète de la vie moderne qu'aura été Baudelaire. Alors, il m'est arrivé déjà de parler de ça, je vais vous dire, dans une conférence que vous pouvez trouver quelque part sur Internet. J'avais même, je crois, adressé le texte, mais je ne sais pas ce que ce texte est devenu. La conférence s'intitulait « S'il y a encore des œuvres ». Il s'agissait pour moi de c'est une conférence qui a été faite à l'école de la photographie d'Arles. Il s'agissait de traiter de la possibilité non pas seulement de produire, non pas même de mener à bien des opérations artistiques, mais bien de mettre au monde des œuvres. Et la question que je me posais, au fond qui m'avait été posé, c'était de savoir si on pouvait encore envisager de faire des œuvres aujourd'hui. Des opérations, oui, on peut envisager d'en faire, et même des opérations artistiques. Par exemple, l'art conceptuel, on peut dire c'est une opération artistique, c'est très souvent une opération artistique. Est-ce que c'est une œuvre? Et en quel sens? Alors, dans cette conférence, je l'ai commencé en gros par une référence à Baudelaire que je vais tout simplement reprendre. Et je disais ceci, supposons que je sois là devant vous avec sous les yeux le poème de Baudelaire « À une passante ». Alors, pourquoi ce poème-là? Parce que c'est le poème que ne cesse de citer Benjamin dans le texte que je suis en train, d'une certaine manière, pas seulement de lire, mais d'extrapoler. Donc, supposons que j'ai sous les yeux, à l'instant, le poème de Baudelaire à une passante. Ce poème a l'allure classique d'un sonnet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quatre vers groupés, puis un blanc, puis quatre autres vers, puis trois, etc. Comme vous savez certainement, la structure du sonnet. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que j'ai déjà commencé à lire le poème de Baudelaire? Oui. Je ne l'ai pas déchiffré discursivement, mais j'ai vu un texte, un bloc de mots, 4, 4, 3, 3. Ça m'a sauté aux yeux. C'est l'évidence du poème. Je m'apprête à lire ce poème que j'ai déjà vu avec cette allure que je viens de dire. Et en effet, je le lis comme tel, en suivant l'apparence qui m'est déjà entrée dans la perception. Mais bientôt, ma lecture s'embrouille. Syntaxiquement, le quatrième vers du premier quatrain se poursuit par et dans le premier vers du second quatrain. Autrement dit, quand je lis cursivement le poème et que j'arrive au quatrième vers du premier quatrain, visuellement, il y a un blanc, il y a un saut, et la phrase pourtant se continue. Donc, entre la structure visuelle du poème, l'allure, visuelle du poème, et la syntaxe du poème, il y a une tension. Donc, bientôt ma lecture s'embrouille. Syntaxiquement, le quatrième vers du premier quatrain se poursuit par et dans le premier vers du second quatrain. Une phrase se clôt là, si bien que la structure du phrasé qui se propose avec le texte n'est pas nécessairement celle que j'ai vue d'abord. La structure du phrasé, c'est pas 4 plus 4, mais 1 plus 4 plus 3. Donc vous avez un emboîtement de répartition qui manifestement est tiraillé. Donc la structure qui me vient à la lecture, ça n'est pas le 4 plus 4, les deux premiers quatrains, mais 1 plus 4 plus 3, sans compter que l'enjambement du troisième vers sur le quatrième peut lui-même modifier cette répartition. De la même manière fait dans le poème de Baudelaire la versification. La découpe classique en alexandrin, qui sont dans la langue française écrits de telle sorte qu'il y ait 6 pieds à dire dans le même souffle, plus 6 autres pieds, donc dans l'alexandrin disons classique, vous avez une sorte de coupe, vous pouvez prendre votre souffle et dire les 6 pieds hémistiche, on dit au milieu il y a une coupe et puis il y en a 6 et on arrive aux 12 pieds de l'alexandrin. Chez Baudelaire c'est plus compliqué, ou c'est plus tiraillé, ou c'est plus tendu. La découpe classique en alexandrin, 6 pieds à dire dans le même souffle plus 6 autres pieds, n'est pas la seule possible. Vous pouvez lire diversement, vous pouvez souffler, prendre votre souffle diversement pour dire les vers de Baudelaire, en tout cas de ce poème-là. Une autre, d'autres le sont également, où les respirations du lecteur sont plus diverses. Autrement dit, ma lecture du poème de Baudelaire est constamment prise dans une tension qu'il faut dire en suivant la définition même du mot que je vais dire tel que Baudelaire l'a lui-même proposé, moderne. Ma lecture est constamment prise dans une tension moderne au sens de Baudelaire. Pourquoi au sens de Baudelaire? Parce qu'il y a deux beautés, deux registres de beauté, ou si vous préférez, deux modalités de la beauté en résidence constante dans la même œuvre. L'exemple que je pourrais prendre, les deux beautés, c'est la beauté du sonnet classique 4-4-3-3, qui réside en même temps dans le poème, une autre structure que celle-là, en même temps. Voilà. Ou bien c'est l'alexandrin que je peux respirer, si j'ose dire, classiquement, et que je peux aussi respirer autrement que classiquement. Deux registres de beauté en résidence constante dans la même œuvre. Deux modalités en résidence constante dans la même œuvre. Eh bien, je suggère de généraliser. Deux modalités en résidence constante dans le même endroit ou dans la même construction. Voilà. J'ai déduit, si vous voulez, cette proposition du poème de Baudelaire et je dis, mais c'est ça la tâche. Alors, on va pas tous écrire des poèmes, mais on va faire des choses, fabriquer des choses au sein desquelles résident deux modalités de présence. Bon, je vais essayer évidemment de préciser. Je pense que c'est là, ce que je suis en train de vous dire, une définition synthétique du rythme. Le rythme, je le définirais globalement, non pas comme une unité modale, mais comme une union de modes. Il y a rythme à partir du moment où il n'y a pas unité, mais union. Union de modes, par exemple, le plus banal du rythme, c'est temps fort, temps faible, ta, 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 c'est pas un rythme, mais ta, 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 ça c'est un rythme. Vous avez en résidence quelque chose qui est de l'ordre, en l'occurrence, d'une alternance. Il n'y a pas unité, mais il y a union de mode, fort, faible, accentué, pas accentué, etc. Donc, imaginez deux modes de présence dans un même objet, dans une, ou dans une même œuvre, envisager, si le mot convient, enfin, j'aurais pas dû le dire celui-là, mais tant pis, gardons-le pour réfléchir, non pas une unité, mais une union, autrement dit, faire du rythme, faire quelque chose de rythmé, ça veut dire aussi laisser de côté la monotonie, faire quelque chose tel que le monotone y est en retrait. Alors, je crois que de ça que je dis de façon très compliquée, heureusement, les exemples ne manquent pas. Je ne dis pas qu'ils sont fréquents, mais tout de même, ils ne manquent pas. Il y aurait, pour commencer, des exemples de plutôt grande échelle auxquels, alors je vais me citer encore une fois, ça n'est pas bien, pas très modeste, mais j'avais fait un article, il y a de ça maintenant quand même un certain nombre d'années, qui était consacré au fond un peu à l'architecture. J'ai pensé à ça pour Pablo, qui est là régulièrement. Donc le texte s'intitulait « Écart, fraction, modernité » et cherchait à être par ailleurs une critique de Frederick Jameson ou de texte de Frederick Jameson sur consacré à l'architecture. Donc j'avais pris des exemples, de trois exemples d'architecture dans lequel vous avez quelque chose qui est de l'ordre d'une union de mode, hein. C'est le carré d'art de Norman Foster à Nîmes, mais pas à regarder tout seul, à regarder comme il est posé dans la ville, c'est-à-dire de côté, faisant angle avec une construction romaine, d'époque romaine. Et bon, il faudrait regarder la chose de plus près, la commenter de plus près. Il y a une façon de décaler les éléments visuels de la construction romaine dans la construction contemporaine signée Norman Foster, mais en fait, il signe l'ensemble, finalement, qui est de l'ordre, non pas d'une unité, mais bien d'une union modale. L'autre exemple, alors ça c'est, je le dis particulièrement pour Pablo, alors je sais pas comment il faut dire ça, je sais comment c'est dit, je pense pas que ça soit le bon mot, mais enfin, la rénovation du musée des Beaux-Arts de Lille, par le cabinet d'architectes Ibos, et son nom m'échappe, Pablo, Mirto Vitar.
Vitar, oui.
Voilà, qui consiste à mettre, vous avez le bâtiment traditionnel du musée, je ne sais pas exactement de quelle date il est, mais en tout cas c'est un bloc, disons, et ils ont construit derrière un bâtiment qui est de même bloc, pas plus gros, etc., mais en verre, qui reflète par les propriétés du verre l'autre bâtiment, et donc il y a un écart entre les deux, et vous avez une tension entre les matériaux sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Donc vous pourrez éventuellement aller voir. Et le troisième exemple que je prenais dans mon article, c'était un travail fait par Herzog et Demeron à Madrid, qui est le CAIXA Forum, dans lesquels Herzog et Demeron ont conservé une façade ancienne. Ils l'ont surélevée partiellement parce qu'en fait le bâtiment est construit sur une pente, et donc cet étage conservé mais surélevé se trouve porté un peu d'un côté, beaucoup de l'autre, par des piles qui sont pas du tout de leur époque. Et puis c'est il y a un troisième étage qui est le plus surélevé, qui est encore d'une autre, enfin qui fait référence, si vous voulez, à une autre époque. Bon, je vous renvoie à ces exemples. Je les tiens sous ce titre-là, écart, fraction, modernité. Et je pense que ça pourrait être pour nous des exemples d'œuvres rythmées, posées, en effet, dans le monde d'aujourd'hui, hein, qui ont été posées, construites dans le monde d'aujourd'hui. Vous pourriez aller voir aussi, autre exemple, si on vous permet encore de sortir à Paris dans les temps qui viennent, le travail qui a été fait, Adrien le connaît parce qu'on est allé, on y est passé ensemble il n'y a pas très longtemps. Vous pourriez aller voir aussi le travail qui a été fait sur la rive nord-est du périphérique parisien et qui a abouti à la réfection de la place Salvador Allende et de l'espace alentour de cette place. Ça se situe à Bagnolet et peut-être que c'est plus connu sous le nom de place de la mairie à Bagnolet. Alors ce travail, il y a un double travail auquel je suis en train de faire allusion. Le travail de l'architecte ou du cabinet d'architecte Jean-Pierre Lotte sur la mairie elle-même qui a été doublé, la mairie 3e République avec ses briques qui est articulée à un bâtiment d'aujourd'hui qui n'a pas du tout les mêmes formes hein, et qui se donne avec des formes circulaires et pas angulaires. Et puis, vous avez le travail sur tout l'espace de la place qui a été fait par l'agence Reichen et Robert Associés, laquelle parle, pour commenter ce travail-là fait à Bagnolet, d'articulation entre les échelles. Et je crois que c'est bien le cas puisqu'il s'agit d'articuler des bâtiments de basse élévation avec les grandes tours de Mercurial, entre autres. Mais c'est pas la seule chose. Et par ailleurs, cette place, dispose, ça ne peut pas dire d'ouverture, ça dépend où on est. C'est, si on est à l'extérieur ou si on est à l'intérieur, dans un cas c'est des ouvertures, dans l'autre cas c'est des échappées, mais elles sont variables et suivant que vous entrez dans la place par un côté ou par l'autre, ou que vous en sortez par un côté ou par l'autre, vous avez une perception des échelles articulées qui est tout à fait différente. Je pourrais dire ça assez simplement en disant ça swing. Voilà. Ça ne cesse de swinguer, c'est-à-dire d'être perçu dans le registre du rythme. Voilà. Je pourrais encore imaginer, j'imagine moi-même, qui ne suis pas architecte, volontiers, pour moi-même, des cas, d'autres cas possibles, qu'il s'agisse de stations de métro, de halls de gare ou de supermarchés, tous endroits qui sont actuellement envahis, comme vous le savez, par un branding monotone. Voilà. Donc j'imagine des opérations, qui seraient plus que des opérations, puisqu'il s'agirait de poser des choses telles que la monotonie de ces endroits, en particulier une monotonie produite par le branding et l'équivalence du mobilier ici et là, c'est toujours les mêmes stations, c'est toujours les mêmes halls de gare, c'est toujours les mêmes supermarchés. Donc j'imagine qu'on pourrait défaire ou modifier cette monotonie précisément pour la faire sortir de la monotonie et y mettre là quelques éléments de rythme. Alors, ce branding monotone que je suis en train d'évoquer, par exemple dans les halls de gare, il n'est pas seulement affaire de marque et de signalement monotone, il est aussi affaire de mobilier, ici et là, toujours le même, pour qu'on reconnaisse bien la librairie, je ne vais pas dire de nom pour ne pas faire de publicité, la librairie X, qui doit, que la gare soit à Paris ou ailleurs, le mobilier doit être le même pour des raisons de branding qui n'ont sûrement aucune urgence vitale, ces raisons de branding. En tout cas, j'ai du mal à les concevoir dans ce registre-là. Pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est comme ça parce que le privilège est donné dans ces environnements-là, le privilège est donné à l'identité et à l'identification, est tellement donné à l'identité et à l'identification que l'expérience de tout ça revient en quelque sorte à l'expérience du monolithe. Voilà. Donc, je suis en train de dire quelque chose, c'est que peut-être que je cherche les constructions à poser, que je cherche à définir, elles ont pas comme caractère ou comme trait d'être identifiables. C'est ce qui m'est arrivé avec le poème de Baudelaire. Je l'ai identifié comme un sonnet, 4-4-3-3. Et quand je passe à l'expérience, je vais revenir sur ce mot, du poème, lente, je le lis, vers après vers, je m'en rends compte que l'identification que j'en avais, l'identité que je m'en étais faite, c'est un sonnet. Eh ben, en réalité, c'est pas tant un sonnet que ça, ou c'est un sonnet drôlement travaillé par quelque chose qui échappe à la structure du sonnet. Donc, à la limite, bien des expériences, comme on dit couramment, que nous avons dans les milieux sociaux qui ne sont pas des espaces, ils sont des milieux où on est plutôt poussé à être des passants qui se défendent et non pas des passants hautement distraits. Dans ces milieux-là, à la limite, en fait, nous ne faisons pas, à proprement parler, bien que nous disions souvent le mot, des expériences. Voilà. On ne fait pas des expériences parce que, alors, expérience et ex, il y a le ex, des milieux sociaux, on n'a pas d'expérience parce qu'on n'en sort pas la plupart du temps. On se retrouve dans la même sorte de milieu alors qu'on vient d'en quitter un. Je quitte le centre commercial, qui n'est pas du tout au centre d'ailleurs, à la sortie de... Alors, j'avais pas m'arrivé de citer celui à la sortie nord de Cahors. Voilà. Et je fais encore quelques kilomètres et j'arrive à Limoges, ou si vous voulez, j'arrive à Orléans. Eh bien, à l'entrée sud d'Orléans, j'ai le même centre commercial, toujours pas au centre d'ailleurs. Hein. Il y a uniformité de l'expérience, et pour le dire donc littéralement, on n'en sort pas du même. On n'en sort pas des identifications et des identités. Voilà. Dans expérience, j'entends justement la possibilité, la périance, ça serait une traversée, le périance, le sens latin de ça, ça serait la traversée, et le ex, on en sort. Voilà. Donc, on est tenu au même, la plupart du temps dans les milieux sociaux, la reconnaissance prime. Et je suis en train de souligner l'opposition entre les mots qui commence par re et les mots qui commencent par ex. Expérience, peut-être qu'une authentique expérience implique qu'il n'y ait pas de reconnaissance de ce qu'il y a. Quand je reconnais ce qu'il y a, je suis dans une logique d'identité monolithique. Voilà. Je suis dans le même qui se reconnaît, qui veut se faire reconnaître, qui plus est. Branding. Et en fait, moi, là, dans le séminaire, j'essaye de définir quelque chose qui serait une authentique expérience sociale. Alors, je pourrais peut-être proposer, ayant dit tout ça, aux architectes et aux designers de réfléchir à toutes ces choses que je viens de dire. Je pourrais leur proposer ce que je vais dire, qui conviendrait d'ailleurs à l'esthétique que j'ai commentée il y a quelques minutes du poème baudelairien, tirailler, distraire les chaînes de reconnaissance. Peut-être que c'est ça le travail à faire, tirailler, distraire les chaînes de reconnaissance. J'ajoute que de même qu'il faut au lecteur que j'étais, du temps pour faire l'expérience du tiraillement formel des sonnets de Baudelaire. De même, les constructions auxquelles je suis en train de penser attendent qu'on y passe, qu'on y repasse, qu'on y soit globalement passant selon des axes et des climats, voire des vitesses variées. Ce ne sont pas... C'est le cas, par exemple, de à mon avis, je m'engage, hein. Bon, on peut toujours discuter, mais de cette place de Bagnolet avec ses articulations d'échelle, etc., je pense que c'est un endroit dans lequel on peut passer et repasser sans qu'on soit y repassant dans la même expérience au sens banal du terme, hein, c'est-à-dire dans la reconnaissance. C'est un endroit où on peut plusieurs fois passer et probablement à des vitesses variées, par exemple à pied, en vélo et par un endroit au moins en voiture, hein, et que ce n'est pas la même place que cette variation des axes nous fera, ou des vitesses nous fera voir. Donc, ce ne sont pas ces endroits auxquels j'essaye de vous faire penser, qui sont peut-être encore à construire pour beaucoup, ce ne sont pas des tableaux observables d'un seul et idéal point de vue. Il faut penser à regarder ça de multiples points de vue, à des vitesses variables selon des axes de regard également changeants. Il y va de lieu, où il en irait de lieu auquel on pourrait accéder de diverses façons. Donc, pas de sens unique, pas de canalisation des déplacements, pas de flux à canaliser, hein, pas de sens unique. Alors, vous savez que Benjamin, il y a un texte de Benjamin, il s'appelle sens unique. Hein. Bon. Pas de sens unique, pas de canalisation des déplacements. On peut y accéder de diverses façons. Et si, alors ça c'est le côté fabricant, hein, faire quelque chose qui ne soit pas à observer d'un point de vue majeur, qui serait le point de vue paysager, hein, du tableau paysager, non, quelque chose qui a des axes variables, on peut y entrer de divers côtés à des vitesses différentes. Et si je me place du côté de la perception, du côté du passant, on peut envisager qu'il y ait pour un même récepteur des séquences susceptibles de diverger, ne serait-ce que par détail, d'un jour à l'autre, d'une expérience à l'autre. Voilà, ça serait pour définir, évidemment c'est encore à gros traits, le poème à poser. Les endroits sociaux pour les espacer. Alors, je m'étais donné pour ce soir une deuxième tâche, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était de définir le sentiment. Hein, j'avais dit avoir le sentiment de tout ça. Alors, qu'est-ce que vient faire ce mot? Donc, je vais consacrer un petit peu de temps à l'analyser. J'ai adopté ce mot d'abord, et je dirais même surtout, parce que, tout simplement, il est présent dans un paragraphe, à mes yeux, important, du Tall Office Building Artistically Considered de Louis Sullivan, 1896. Texte, donc, où il y a finalement, et je dirais peut-être, hélas pour Sullivan, parce qu'on a retenu que ça, ou on tend à ne retenir que ça, la fameuse form ever follows function. Mais le passage auquel je vais vous référer est avant dans le texte de Sullivan. Il s'agit de nommer, je cite et je traduis moi-même, ce qui élève une architecture élémentaire jusqu'au commencement d'une vraie expression architecturale. Voilà. Le sentiment, c'est ce qui a lieu pour Sullivan lorsque on s'est élevé de l'architecture élémentaire jusqu'au commencement d'une vraie expression architecturale. Donc, ce qui est la condition de possibilité de ce que Sullivan va nommer deux phrases plus loin dans son texte « sentiment », c'est, il vient de dire, une vraie expression architecturale. Alors, je vais laisser de côté l'idée qui apparaît dans cette formule de Sullivan que s'il y a une vraie expression architecturale, il pourrait y avoir aussi une fausse expression de l'architecture, ou bien, si vous voulez, une expression faussée ou une expression mensongère, ou bien encore une expression insincère. Hein, tous ces mots sont des antonymes de « vrai hein, ». Donc, faussé, mensonger ou insincère. Je laisse de côté cette piste-là qu'il faudrait examiner. Qu'est-ce que c'est qu'une architecture faussée, mensongère ou insincère? Est-ce que c'est une architecture Sullivan vous dirait, bah, c'est tout simplement pas une architecture. C'est une fausse architecture. C'est un semblant d'architecture, une pseudo-architecture, etc. Une chose est sûre. C'est que, pour Sullivan, l'élévation dont il parle, c'est son mot, hein, l'élévation dont il parle consiste, je cite, en l'addition d'une certaine qualité et quantité de sentiments. Voilà. L'architecture parvient à son niveau de vraie, de véritable expression quand il y a, aux tâches élémentaires de l'architecture, addition. Quand il y a addition d'une certaine qualité et quantité de sentiments. Et il met ce mot-là dans sa langue anglaise. Il ne dit pas feeling, il dit bien sentiment. Alors, faudrait le dire à l'américaine, hein, mais vous avez un meilleur accent que moi, donc je vous laisse le faire. Sentiment, un truc comme ça. Bon. Que signifie ce mot chez Sullivan? Que signifie ce mot de sentiment? Il l'emploie 5 fois dans tout l'article, qui n'est pas très très long, dans tout le texte, il l'emploie 5 fois, jamais après le passage que je viens de citer. Alors, de ce petit détail textuel, je me propose de déduire que la formule qui vient après, la fameuse formule « form ever follows function », qui finalement clôt dans nos esprits la réflexion de Sullivan, en donne en fait toute la condition. C'est-à-dire qu'il ne dit plus sentiment, parce que ce qu'il va dire avec ces mots-là, « form ever follows function », en fait, c'est une façon de dire dans un autre langage ce dont il a été plusieurs fois question, 5 fois dans tout l'article, avec ce mot qui est américain, qui est audible en américain, mais qui est quand même très européen, le mot de sentiment. Bon. Donc, je pense que entre le placement du mot sentiment dans le texte de Sullivan et le placement de la formule form ever follows function, il y a un rapport, il y a une cohérence. Pour que le sentiment s'ajoute, addition, aux opérations élémentaires de l'architecture, voilà la proposition de lecture que je fais, pour que le sentiment s'ajoute aux opérations élémentaires de l'architecture, il faut que la forme advienne par suite, mais aussi en sus de la fonction. Hein? Form ever follows function, ça veut dire, à mon avis, le follows deux choses, que la forme advient par suite, mais aussi en sus, puisqu'il y a addition, vous voyez, dans les pages précédentes. Hein? Donc, ça s'ajoute, voilà. Que la forme, ça se fait ensuite de la fonction, en la suivant, ensuite et en la suivant, mais aussi, ça vient en sus, c'est une addition. Il y aurait donc, entre les registres du sentiment et de la forme, un lien. Le sentiment étant en quelque sorte suscité par la forme. Si ce qui advient à ma perception est doté de forme, alors j'en aurai le sentiment. Non pas le sentiment de la chose, mais le sentiment de ma perception. Je m'apercevrai que je suis en train de percevoir. Si ce qui advient à ma perception est doté de forme, alors j'en aurai le sentiment. Alors vous me direz que je suis bien avancé, parce que j'ai dit que pour définir sentiment, au fond, il faut comprendre ce que veut dire forme, et alors on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je ne vais pas me lancer en discussion tout à l'heure, si vous voulez, dans la définition de forme, mais je vais simplement faire remarquer que dans ce que je viens de dire est impliquée la possibilité qu'il y ait deux sortes de perceptions. Il est impliqué par ce que je viens de dire, et à mon avis par le texte de Sullivan lui-même, qu'il y ait certaines constructions posées dans le monde qui peuvent être perçues sans être senties, et d'autres, en revanche, sont sentis en même temps que perçus. Donc, je me dis, j'ai lu Benjamin et les deux sortes de distraction. Bon, je mets ça de côté et puis l'autre jour, je vis sous Ivan et j'en arrive là. Alors, c'est pas le même langage, c'est pas le même vocabulaire. Mais vous voyez bien que je suis en train d'aller quand même vers quelque chose où il y a, un air de famille. Il y aurait chez Sullivan, il y aurait chez Benjamin deux sortes de perceptions. Bon, j'y reviens pas, j'en ai assez parlé. Et il y a, semble-t-il, chez Sullivan deux sortes de perceptions des constructions architecturées. Celle où on perçoit sans sentir et celle où on sent en même temps qu'on perçoit. Ça ne suffit pour autant pas à nous faire comprendre ce que c'est que ce fameux sentiment. Il faut donc que je poursuive encore un petit peu l'analyse. Alors, sentiment, je suis allé chercher, comme souvent, dans le dictionnaire historique de la langue française, en l'occurrence, ça pourrait excéder la langue française, sentiment à avoir, en français comme en anglais, au sentire latin, au verbe latin sentire, qui peut se traduire par sentir, percevoir par les sens, mais aussi, et ça c'est vieux comme le mot, en latin, en anglais, en français. Sentir, c'est percevoir par les sens, mais aussi être d'avis, se rendre compte, juger, voire voter, dans certains usages du mot. En tout cas, être d'avis, se rendre compte, juger. Donc, sentiment, c'est un mot qui renvoie du côté de la perception et du côté du jugement. Le sentiment est un état d'esprit que je définirai donc par deux éléments. D'une part, l'expérience d'un inattendu, quelque chose comme une surprise sensible. D'autre part, la désactivation dans la réception du sujet ou du supposé sujet percevant de la fonction entendement, quelque chose comme une hésitation schématique. Je sors de la seule référence à l'histoire de la langue et je vous propose de définir le sentiment. J'ai vu dans l'histoire de la langue que le mot à deux niveaux, mais qui jouent ensemble. Voilà. Donc, la proposition que je fais pour notre sujet, c'est de dire, il y a sentiment, j'ai le sentiment de quelque chose lorsque, avec cette chose, m'arrive quelque chose d'inattendu que je perçois et qui me fait hésiter sur ce que c'est que cette chose-là. Je mets des mots qui vont me permettre de parler dans une seconde. Rassurez-vous, je vais essayer de faire ça simple, de Kant. Voilà. Ma référence philosophique pour examiner cette affaire de sentiment, c'est Kant. Et c'est Kant parce que chez Kant, il y a une définition du sentiment. Je ne sais pas si Sullivan la connaissait, je ne sais pas s'il y pensait explicitement, mais je trouve quand même que ça convient bien. Donc, j'emprunte les éléments de ma définition. Je dis au fond, il y a sentiment lorsqu'il y a une hésitation schématique. Le schématisme chez Kant, c'est pas être schématique au sens banal du mot en français. C'est quelque chose dans l'esprit humain qui permet de reconnaître, pour le dire très vite. C'est pas suffisamment précis par rapport à Kant, mais par rapport à mon exposé. C'est parce qu'on a des schèmes qu'on peut identifier et reconnaître les choses. Par exemple, que je peux dire, quand je vois un truc qui est un arbre particulier qui a quelque chose de tous les arbres et qui en même temps a quelque chose à lui spécifiquement, que je laisse de côté quand je l'identifie. Quand je dis « c'est un arbre que je vois », je ne dis pas « c'est cet arbre-là particulier que je vois », j'en note les particularités, je fais valoir le schème qui fait que ça se ressemble d'un arbre à un autre arbre. On laisse tomber les différences, si vous voulez. Voilà, on est dans l'identification, etc. Eh bien, je pense que Et même, je dirais que Kant pense, je vais vous le montrer, qu'il y a sentiment et que c'est ça le sens du mot. Quand on fait du mot un concept, il y a sentiment, ce qui est le cas quand même au fond de Sullivan aussi. Il y a sentiment à partir du moment où justement quelque chose de la fonction de reconnaissance ne fonctionne pas et que, pour le dire dans un mot kantien, on n'entend pas, on n'a pas l'entendement, la compréhension de la perception qu'on a. Kant va donner un nom à ça, j'anticipe, c'est le mot étonnement. Donc j'emprunte toute mon analyse du sentiment au langage de Kant pour dire qu'il y va, quand il y a sentiment, d'une réceptivité, mot qui chez Kant se dit aussi sensibilité. La sensibilité chez Kant, sa vertu majeure, c'est d'être réceptive. L'esprit sensible, l'esprit est sensible en tant qu'il est réceptif, ou l'esprit réceptif est réceptif là où il est sensible. Bon. Il y va donc d'une réceptivité sur laquelle n'embraye pas une compréhension entendue par le sujet, entre guillemets, si c'est un sujet qui perçoit. Du point de vue linguistique, le mot « sentiment » a été particulièrement prisé au XVIIIe siècle, siècle de Kant. Donc, je ne sais pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, si Sullivan le sait lorsqu'il choisit de dire « sentiment » plutôt que « feeling » dans son texte. Je le lis en tout cas en supposant qu'il y a de fait une sorte de réminiscence du traitement par la pensée du XVIIIe siècle du sentiment dans le texte de Sullivan, et que c'est le meilleur moyen d'éclairer le discours moderne de Sullivan que d'aller voir ce que Kant, qui a soigneusement défini le sentiment, a pu en dire. Eh bien, il y a un passage de la critique de la faculté de juger, première partie, livre 2, analytique du sublime, remarque générale sur l'exposition des jugements esthétiques réfléchissants, voilà, dans lequel Kant définit le sentiment. Il prend un paragraphe pour le définir. Qu'est-ce qu'on peut lire là? Kant dit, il faut distinguer, en substance, hein, je ne le dis pas littéralement, il faut distinguer le sentiment de la passion et du penchant. Il fait curieusement référence dans ce paragraphe, à titre d'exemple, aux constructions architecturales. Et il définit finalement le sentiment, donc qui n'est pas une passion, qui n'est pas passif, qui n'est pas un penchant, donc qui ne correspond pas à un désir qu'on aurait, hein, vers quoi on pencherait. Il dit, ah bah tiens, de bons exemples pour ça, c'est des constructions architecturales, on va regarder les différences. Et finalement, il dit que ce qui définit le sentiment, il y a vraiment sentiment, nous avons vraiment le sentiment de quelque chose, ou nous sommes vraiment dans le sentiment de quelque chose lorsqu'il y a étonnement et ou admiration. Et un peu plus loin, Kant définit l'admiration en disant « c'est un étonnement durable ». Autrement dit, s'il y a sentiment, si nous sommes dans le sentiment quand il y a pour nous étonnement et ou admiration, et que l'admiration est un étonnement durable, le noyau substantiel du sentir, c'est l'étonnement. Voilà. Il y a pour moi étonnement, ou mieux, je me trouve dans l'étonnement, je me trouve dans l'étonnement de quelque chose lorsque je suis étonné. Non pas je m'étonne, mais je suis étonné par quelque chose. Le sentiment aurait lieu à l'occasion d'une perception étonnée. Cette perception n'est pas un pur percept, ça n'est pas un cas d'émotion sentimentale au sens habituel de ces mots. Elle fraye la voie un travail chez Kant, non pas avec des concepts de l'entendement, mais avec des idées de la raison. C'est-à-dire que on ne comprend jamais son quand on est étonné, on n'est pas dans la compréhension, on n'est pas dans le concept, mais en revanche, ça nous met en relation avec des idées, ça fait penser. Voilà, ça fait pas savoir, mais ça fait penser. L'être dans l'étonnement est un être qui se met à penser, qui ne sait pas plus qu'il ne savait déjà, c'est mis de côté, hein, mais l'être dans l'étonnement est un être qui est mis par quelque chose à penser, à la pensée, à des idées. Voilà. Alors, si je devais chercher, je ne sais pas, peut-être qu'il est tard, je continue encore un petit peu. Si je devais chercher, alors, un exemple à ma façon, pour illustrer la condition de possibilité d'un tel sentiment, un exemple à ma façon, ça va être très décevant. Voilà. Je donnerais celui, l'exemple que j'imagine, ça serait celui de l'articulation d'un mur de briques et d'une paroi de verre. Je me demande si cet exemple ne me vient pas à l'esprit à cause de quelques expériences, des petites expériences qu'il m'est arrivé d'avoir en passant dans des endroits sociaux. Et je me demande aussi si cet exemple ne me vient pas par une réminiscence que je n'ai pas précisée de Frank Lloyd Wright. Donc, je pense à l'articulation d'un mur de briques et d'une paroi de verre. Ce genre d'articulation auquel je pense, s'il n'est pas faussé par une volonté de faire signe, s'il n'est pas symptomatique, s'il relève pour une part d'un donné, par exemple, le mur de briques, il est déjà là quand l'architecte commence son travail. Si la matérialité de la brique n'est pas trahie, si elle n'est pas un parement imitatif de la fausse brique, comme on sait en faire aujourd'hui, si elle a bien donc quelque chose de la persistance d'une donnée d'une autre époque, la brique, le mur de briques, bref, ce genre d'articulation, dans les conditions que je viens de dire, hein, si le bout de mur de brique n'est pas faussé dans sa présence, eh bien, ce genre d'articulation entre des traitements de matière qui relèvent d'époques techniques différentes fait venir à mes yeux un matériau actuel, le verre, et un matériau qui ne l'est pas, la brique. Ce genre de situation que j'imagine n'insère pas seulement ma perception dans l'actualité, côté verre, si vous voulez, mais ce genre de situation que j'imagine associe aussi ma perception à l'idée d'un écart, l'écart entre le temps, l'époque de la brique et le temps, l'époque du verre. Donc, la présence articulée, conjointe, montée l'un à côté de l'autre de ces deux matériaux qui ne sont pas de même époque fait jouer ma perception dans un écart, fait jouer, du fait de ma perception dans mon esprit, un temps contre un autre, une historicité contre une autre. Pas contre au sens d'une opposition, mais contre au sens d'un tout contre, hein, d'un à côté. Il s'agit ni de conserver le passé dans cette affaire, ni de le ruiner. Si j'examine le phénomène de l'autre côté, non pas du côté des matrices techniques d'avant, la brique, mais du côté des matrices d'aujourd'hui, le verre, il s'agit, dans l'exemple que j'imagine, de faire à l'aujourd'hui du verre une place qui ne soit pas catastrophique, c'est-à-dire envahissante. C'est-à-dire que le verre à côté de la brique, c'est l'aujourd'hui qui n'envahit pas l'autrefois. Et la brique à côté du verre, c'est l'autrefois qui n'est pas seulement conservé. Il y a quelque chose d'une tension là, et ça m'intéresse beaucoup. Quand je vois des petites choses comme ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors j'ai dit, il s'agit de faire en sorte que la présence de l'aujourd'hui, la pose de l'aujourd'hui par exemple l'architecture de verre, dans le monde ne soit pas catastrophique, c'est-à-dire envahissante, j'ai dit. Alors, je fais un lien entre la catastrophe et l'envahissement, parce qu'il y a très longtemps, je me suis intéressé à ce mot catastrophe, qui est grec, et qu'on trouve chez Platon, et je me suis demandé, bah, tiens, quand Platon dit ça, qu'est-ce que c'est ? Son exemple favori du catastrophique, c'est le déluge. C'est lorsque l'eau envahit la terre tellement que on ne voit plus la différence entre la terre et l'eau, c'est-à-dire lorsque s'efface une démarcation. Il y a catastrophe, premier sens du mot, enfin, en tout cas vieux sens du mot. Chez Platon, le catastrophique, c'est par exemple le déluge, c'est-à-dire la situation dans laquelle une démarcation s'efface. Serait donc catastrophique une situation dans laquelle il n'y aurait que du passé conservé ou que de l'actuel envahissant, à la manière d'un déluge. Hein, c'est pour ça que l'articulation du mur de briques et de la paroi de verre, que j'imagine, je vous la suggère comme exemple de rythme, de tension, de haute distraction, enfin, etc., etc. Donc l'enjeu de tout ça, c'est l'apparition d'un écart entre deux âges et deux modalités du construire et du fabriquer. Cet écart, me semble-t-il, n'est pas sans rapport avec ce qu'a tenté de dire Baudelaire lorsqu'il a mis lui-même au monde le mot de modernité. Parce que on oublie souvent ça, je le rappelle à chaque fois que je peux, modernité est un mot du 19e et l'un des tout premiers, Baudelaire, quand il met le mot, le peintre de la vie moderne, pardon, il demande à son lecteur de bien vouloir accepter ce mot qui n'est pas un mot d'usage. Hein. Si vous m'accordez le mot modernité, donc il l'invente. Voilà. Et quand il dit ce mot qu'il invente, modernité, Baudelaire, c'est ça qu'il veut dire. Il parle du tiraillement entre une beauté qui tient à l'autrefois et une beauté qui tient à l'aujourd'hui. Voilà. Donc je dirais que dans ce que j'essaie de vous mettre à l'esprit, il s'agit de quelque chose posé dans le monde qui manifeste, qui fait paraître un écart entre deux âges, deux modalités du construire et du fabriquer, cet écart étant la modernité, au sens précis du mot, en tout cas chez Baudelaire. Je ne sais pas si je ferai pas bien de m'arrêter là pour ce soir. Peut-être juste pour conclure, dire que le sentiment que j'espère avoir à peu près défini et contextualisé, je peux là, dans ce que je veux dire à l'instant, revenir au propos de Sullivan ou à celui ou un autre propos que développera plus tard Frank Lloyd Wright. Je dirais que le sentiment, la modernité, la rythmique, l'écart, l'articulation d'échelle, enfin tout ce que j'essaie de vous dire ce soir, n'ajoute rien aux fonctionnalités du moment. Voilà. Ou plutôt, le mot ajouter étant ambigu à cause de l'addition chez Sullivan, ça ne sert pas la fonctionnalité, ça n'est pas quelque chose qui est mis au service du fonctionnel. Voilà. Ça, je dirais, ça y fait insister une distinction sensible. Peut-être que le travail, la tâche pour espacer le social, c'est de faire quelque chose qui permet qu'insiste dans les choses qu'on fait une distinction sensible. Voilà. C'est ça peut-être la formation esthétique des choses hein, qui vont faire qu'elles se manifestent à nous dans le registre d'un étonnement. Hein. Je ne m'attendais pas à lire. Je m'attendais à lire un poème de 4-4-3-3 et en fait, ce que je dis, c'est autre chose. J'ai été étonné par le poème lui-même. Insiste là, dans mon esprit, une distinction. Je pense que c'est ce dont il faudrait donner des concrétisations, si vous voulez, si on peut, pour aller un peu mieux définir ce que peut vouloir dire cette drôle d'expression par quoi j'ai commencé, espacer le social. Voilà pour ce soir.
Merci beaucoup, Pierre-Damien. Est-ce que vous avez des questions, des remarques?
Moi, j'ai une question, une remarque. On peut appeler ça. C'est quand tu parlais de l'étonnement comme étant... S'il y a étonnement, il y a admiration, qui est l'étonnement durable. Je pensais, par rapport à ce que tu racontais forcément au Centre Pompidou, qui a provoqué de l'étonnement, mais pas forcément de l'admiration. Enfin, ce que je veux dire, c'est que cet étonnement, tu l'entends forcément avec l'admiration ou ça peut provoquer d'autres types de sentiments aussi.
Alors, d'abord, c'est... Alors, là, je joue le parapluie. J'allais dire, d'abord, c'est pas moi, c'est Kant. Hein.
Oui, pardon.
Donc, alors, parce que, en fait, je me demande, effectivement, qu'est-ce qu'il veut dire au juste. Donc, il dit, bon, j'ai pas le texte sous les yeux, hein, je l'ai pas là immédiatement pour, j'aurais dû me le mettre sous les yeux, mais je l'ai pas fait, j'ai pas pensé. Mais en tout cas, bon, il dit comme, il fait souvent ça quand, hein, il rajoute des précisions. Bon, donc, il dit, l'admiration, c'est un étonnement durable. Voilà. Et donc, il y a sentiment lorsqu'on est, étonné ou dans l'admiration. Et puis il y a cette pression, mais au fond, l'admiration, c'est un étonnement durable. Voilà. Ça va pas répondre à ta remarque, mais j'en ai lu plutôt que le cœur de la notion de sentiment, c'est l'étonnement. Alors, après, est-ce que ça dure? J'ai quand même commenté comme j'ai pu en disant, en parlant d'expérience, c'est-à-dire quelque chose qui peut demander du temps, être refait, et quand c'est refait, ça, en fait, c'est pas refait parce qu'il se produit pas la même chose. Je lis le poème de Baudelaire et je me rends compte que je peux même la syntaxe du poème, je peux en produire plusieurs à la lecture. Un jour, ça sera celle-ci, un autre jour, ça sera celle-là. Il y a plusieurs rythmiques possibles. Donc, il y a bien quelque chose d'un étonnement qui va se répéter, qui va durer. Kant dirait, bah, c'est admirable. Ce poème est admirable parce que il peut produire plusieurs étonnements différents. Voilà. Alors, est-ce que le Centre Pompidou est admirable au sens de Kant? Moi, j'aurais tendance à penser qu'il y a quelque chose là-dedans qui, pour moi, fait persister ou renouveler l'étonnement. Mais bon, sûrement ça peut se discuter. Il y a aussi les choses qui sont pas stables d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire si on tourne autour et c'est pas la même chose qui se passe, quoi. Voilà. C'est le même objet et pourtant c'est pas le même sentiment. Enfin, c'est le sentiment, c'est du sentiment, mais c'est pas la même. C'est pas stable. Ce qu'on éprouve du bâtiment n'est pas constant. D'un côté à l'autre, par exemple. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si l'étonnement. Alors, quand on dit un étonnement qui dure, est-ce que c'est la même chose d'un étonnement qui se renouvelle? Tiens, bon.
En tout cas, ce que tu disais, ça étonne, donc ça fait penser. Enfin, c'est ça aussi la façon dont on parlait.
Oui. Je pense que si je reste un tout petit peu dans la ligne de Kant, c'est. Est étonnante une chose dont je ne parviens pas, alors je vais dire en langage chic, à faire la synthèse. Je parle grec. Si je parle latin, je vais dire est étonnante quelque chose dont je ne parviens pas à avoir la compréhension, synthèse, compréhension, voilà. En langage ordinaire, quelque chose dont je n'arrive pas à faire le tour mentalement. Il y a quelque chose là-dedans qui j'en fais le tour. Je pourrais dire, ça se définit dans mon esprit. Finesse en latin, c'est les frontières qui entourent, etc. Ça se définit pas dans mon esprit. Voilà. Alors peut-être que c'est ça le Centre Pompidou, c'est une architecture que j'arrive pas à définir. Je cherche à la définir et j'arrive pas à la définir. Et ben ça, c'est un objet étonnant. Beaucoup beaucoup de muséographie aujourd'hui, et à mon avis, Alors, je ne sais pas si c'est fait pour, mais le fait est que ça fait ça, que je vais dire. La muséographie, c'est que ça essaye de prémunir le regardeur de l'étonnement en produisant du savoir autour de l'œuvre. Par exemple, vous allez voir une peinture dans un musée. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'y aller sans se renseigner d'abord. Voilà. Et on verra bien ce qui nous étonne, c'est-à-dire ce qui dépasse notre connaissance et notre compréhension, nos concepts, notre savoir, etc. Mais si j'ai un guide muséographique qui m'épargne l'étonnement, parce que c'est souvent de ça qu'il s'agit, alors évidemment, c'est rassurant, je suis bien dans le savoir, il n'y a pas de surprise, mais il n'y a plus d'étonnement, et donc, dans le raisonnement que j'essaye de vous proposer ce soir, il n'y a pas de sentiment. Le sentiment disparaît.
Voilà. Et pour autant, ça n'empêche pas, l'objet n'empêche pas, si on veut, de le comprendre aussi, par rapport à ce que tu disais la dernière fois sur les objets pervers. Enfin, là, c'est le sentiment quand je découvre l'objet ou l'œuvre ou quoi que ce soit, mais ça n'empêche pas. Tu dis, on n'arrive pas à en faire le tour tout de suite, mais en soi, c'est possible de le comprendre.
Sullivan, alors t'es pas Kant cette fois, Sullivan te répondrait, ce qu'on peut comprendre dans l'objet, c'est. Il y a quatre niveaux pour définir l'architecture dans le passage que j'ai mentionné ce soir. Et j'ai parlé du dernier, le plus haut, hein, celui où il y a, qui produit le sentiment et où il y a forme. Voilà. Mais avant ces niveaux-là, en effet, il y a la fabrication de quelque chose qui est compréhensible. Oui, donc, qui répond à une commande, qui fonctionne, etc. Et pour tout ça, il faut avoir des concepts, des connaissances, etc. Et il y a quelque chose en plus, addition, dans certains cas, qui ne se comprend pas, à laquelle vous ne parviendrez pas en développant des connaissances, dont la source n'est pas de cet ordre-là, n'est pas de l'ordre du concept. Donc, moi, je propose... en rapportant ces opérations un peu discutables, elle n'est pas. C'est rapporter un texte de la fin du 19e à une, qui n'est pas philosophique à une philosophie 18e. Enfin bon. Donc, c'est quelque chose qui peut peut-être venir, non pas à partir de concepts, mais à partir d'idées, ou qui peut venir avec, pas à partir d'eux, mais qui vient avec des idées. Et pareil, une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, c'est quelque chose qui fait venir des idées.
Tu veux dire quelque chose?
Ouais, ça me fait penser à... Parce que j'ai été amené à lire Gros Plus avec le séminaire Architecture et Société. Et ça me fait penser aussi à la notion de contraste que Gros Plus, à un moment, parle dans... construction horizontale et ça me semble être très en écho avec ça. Alors il dit à un moment voilà, que l'homme a besoin de contraste pour le stimuler et le détendre et ça me semble assez être assez lié quoi, cette affaire là de contraste aussi. Alors quand tu parlais de rythme, de forme, peut-être de travailler les contrastes aussi dans l'objet ou peut-être en contraste avec les objets existants ou tout ça, aussi à réfléchir.
Bah, ça serait un mot qui conviendrait. J'allais reparler juste avant que tu parles de l'architecture du centre Pompidou. C'est-à-dire, elle est aussi... elle vaut aussi, dans mon regard, pour son écart avec l'architecture environnante qui ne cesse d'être là. Donc, contraste. J'ai lu cet après-midi avant le séminaire un texte consacré à Jean-Luc Godard. Et ce texte me fournit un mot, alors je ne l'ai pas mis, mais que je trouve intéressant, celui de ponctuation. Voilà. La ponctuation, c'est pas signifiant. Le signe de ponctuation, c'est pas signifiant. Mais ça marque ou ça démarque le souffle, si on devait dire la phrase. Hein. Là, il faut reprendre son souffle. Là, il faut faire un blanc, etc. Ça contraste la ponctuation, le contraste, le rythme, l'écart, l'articulation, enfin, vous voyez, toutes ces choses. Oui, oui, il y a des relations entre tout ça.
Oui, il y a pas mal de... Ça me fait penser à pas mal, évidemment, de peut-être de notions assez formelles qu'on peut faire appel, justement, quand on dessine. Enfin, c'est vrai qu'on nous apprend, alors je vais peut-être parler de nos formations en design, mais on nous apprend à faire des contrastes, à faire des différences d'échelle, par exemple, à différencier les traits aussi du dessin, faire des traits plus gras, plus fins. Et en fait, cet apprentissage-là me semble assez lié à ce séminaire, de peut-être ces espaces-là me semblent être dans ces contrastes-là, en fait, aussi.
Oui. Et si je m'adresse au designer, enfin à la part de designer qu'il y a parmi vous, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, donc j'ai retenu ce que je vais vous dire, mais finalement je lâche là au moment de la discussion. Quand j'ai fait les conférences pour Toulouse au mois de fin novembre décembre là, sur la condition économique du design, il y a une étudiante qui a parlé ensuite, alors je veux dire projet puisqu'il faut bien dire le mot, qui parlait de son projet qui consistait à faire quelque chose pour les fabricants de bérets basques. Donc, alors, elle imaginait un site, une façon de promouvoir dans le monde d'aujourd'hui cet objet d'antan qui est le béret. Voilà. Et alors, il se trouve que elle a souhaité que je lui réponde à une question, ce que j'ai fait comme j'ai pu. Et cet exemple me reste en tête parce que je me dis, mais restaurer le béret, on est quand même un peu dans le conservatoire là. Il y a quelque chose qui me va pas vraiment. Je vois pas là-dedans un projet d'aujourd'hui, pour aujourd'hui. Mais alors, je vais dire quelque chose qui est peut-être une bêtise, mais quand je prenais mon exemple imaginaire du mur de briques et de la paroi de verre, pas tout à fait imaginaire, mais un peu quand même, je pensais aussi à ça et me dire, mais le béret s'est fait avec du feutre ou quelque chose, une matière de ce type-là. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer justement de faire une coque d'ordinateur en feutre? À ce moment-là, ça relance l'artisanat producteur de feutre, ce qui est le but économique du projet, mais pour fabriquer un objet qui met l'actualité technologique dans une matière. Enfin, il y a une tension que j'ai. Enfin, voilà, j'essayais d'imaginer des choses comme ça, c'est-à-dire d'inscrire dans les matériaux, dans le matériel, la tension dont j'ai essayé de parler ce soir.
Et du coup, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut lire cette intervention quelque part ?
Est-ce que ?
On peut lire cette intervention ou la voir, elle a été.
Laquelle intervention ?
La condition économique du design.
Oui, j'en sais rien. Normalement, elle devait être mise sur site par l'école d'art et design de Toulouse. Et je ne sais pas ce que c'est devenu. Voilà. C'est les bizarreries de la période. Normalement, elle devrait être écoutable. Est-ce que moi j'ai mis un lien sur mon site ? Non, parce que je ne crois pas, parce que j'ai voulu respecter ceux qui m'avaient fait travailler. Et cela dit, s'ils ne mettent pas sur le site, moi je les mettrai dans ce cas-là. Même le texte. Mais je me demande si le texte, je ne l'ai pas mis sur mon site.
Okay,
je m'en occupe.
Merci.
Il y a quelque chose aussi, peut-être je me pose comme question à propos peut-être de, comment dire, quand tu as dit passion, j'ai pensé aussi à ce qu'on peut entendre aussi dans la pratique de design, à faire passer quelque chose, quoi, à faire passer un message, des choses comme ça, et ce qui est plutôt problématique. Et bon, je sais pas comment dire ça, mais ça me poserait problème peut-être que qu'on force la production de ce sentiment, enfin que peut-être tu parlais peut-être de règles, mais peut-être qu'une règle ce serait de ne pas produire un type de sentiment aussi, enfin je réfléchis, hein.
Ouais. Non, mais un sentiment, et même ce que Sullivan pense quand il parle de quatrième degré le plus élevé de l'architecture, je ne pense pas qu'on puisse comprendre ce que ces gens-là ont essayé de dire. Ils n'ont pas forcément dit, comme je vais dire, et j'allais dire, alors ils en ont peut-être pas dit assez. Ils n'ont peut-être pas réussi à en dire assez. Ça, c'est possible, c'est d'ailleurs ce qui fait que justement on les entend, on les lit si mal, on les lit si peu, enfin bon. Le niveau le plus élevé de l'architecture, la vraie expression architecturale, ça n'a pas de cause. Ça a des conditions de possibilité. Il y a un problème de logique derrière ça. Donc ça, c'est moi qui le dis pour comprendre le texte. Ça, vous ne le lirez pas dans le texte, mais je pense qu'il faut se dire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode pour produire du sentiment.
Oui.
C'est pas un savoir, c'est pas un savoir-faire, c'est pas une science, c'est un art. C'est clair dans leur esprit. Mm. Voilà. Alors, pour comprendre ça, en plus, quand on a dans la tête Kant, etc., dont je persiste à penser que c'est probablement le philosophe de l'art moderne par excellence, même s'il a parlé avant. En tout cas, qu'on peut pas comprendre l'art moderne sans un moment ou l'autre quand même se coltiner. Peut-être on le sait pas, mais des concepts, des notions qui sont des notions travaillées par Kant. Bon, en tout cas, le sentiment, ça ne se produit pas, ça arrive. Il arrive que je sois dans le sentiment des choses. Bon, alors. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est parce que je m'y suis préparé? Non, parce que ça voudrait dire que la source de l'évaluation des choses, c'est le sujet. C'est pas de ça qu'il est question. C'est bien du côté des choses que ça vient. C'est pour ça que j'ai, dans la séance de ce soir, j'avais commencé en disant il faut chercher ce qui peut provoquer la haute distraction, etc. Du côté des choses, les choses faites. Voilà. Mais en même temps, pour ces choses à faire, il n'y a pas de méthode qui puisse être une science, un savoir-faire, etc. Il n'y a pas de cause à ça. Ça ne se cause pas avec des conséquences. Les ingénieurs aimeraient bien qu'il y ait des causes à ça, parce qu'ils pourraient avoir la maîtrise de la chose. Mais il n'y en a pas. Voilà. En revanche, il y a des conditions de possibilité. Ce n'est pas du tout pareil, parce que quand vous avez les conditions de quelque chose, vous savez que cette chose est possible, vous n'êtes pas sûr qu'elle aura lieu. Quand vous avez la cause de quelque chose, la chose aura lieu. Elle est causée par sa cause. Et l'effet, inévitablement, est là. Les conditions, c'est autre chose. Donc, il y a des conditions pour que le sentiment ait lieu. Il n'y a pas de cause au sentiment. Donc, quelles sont les conditions? Déjà, par exemple, se dire que... s'arrêter au fonctionnel, c'est manquer quelque chose. Voilà, c'est manquer justement se satisfaire de la fonctionnalité, c'est manquer quelque chose. Voilà. Il faut se dire qu'il y a quelque chose de possible en plus, la fameuse addition, que ça ne viendra pas selon une méthode répétable. Que c'est pas expérimental au sens des scientifiques. Expérimental au sens des scientifiques, ça suppose, c'est même là aussi aujourd'hui les gens, j'essayais de reprendre ça quand je pouvais, quand j'étais auprès des étudiants, mais même il n'y a pas que les étudiants, même trop de gens, enfin qui devraient pas parler comme ils parlent, mais parlent comme ça, disent expérimentation en pensant qu'ils disent expérience ou l'inverse. mais c'est pas du tout la même chose. L'expérience, c'est une traversée indécise. D'ailleurs, on ne sait pas si on en ressortira. L'exemple prototypique de l'expérience, c'est les aventuriers sur les petits bateaux grecs se perdant dans la Méditerranée. Hein, parce qu'il n'y a plus de repères et ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir. Ça, c'est une expérience. Et finalement, ils s'en sortent, donc c'est une expérience, expérience. Mais expérimentation, ça veut dire autre chose. Expérimentation, ça veut dire qu'on a, on a en main ce qui va permettre de répéter l'expérience et par conséquent, la fait sortir du registre de l'expérience en tant que le registre de l'expérience, c'est l'incertitude. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Eh bien, je dirais que les conditions du sentiment, elles relèvent d'une expérience de la construction et pas d'une méthode de la construction. Alors, pour que cette expérience ait lieu, peut-être on a plus de chances que cette expérience se produise si, par exemple, on se retire de la tête le mot « projet ». Si on arrête de projeter et qu'on essaye, par exemple, qu'on tâtonne, toute chose que vous trouveriez dans les cours de Paul Klee au Bauhaus, par exemple, je me répète, je l'ai déjà dit, mais quelque chose qu'il faut s'expliquer. Comment se fait-il que Paul Klee est quasiment le plus long, celui qui a le plus longtemps enseigné au Bauhaus, alors que c'est le moins designer de tous, au sens il a jamais fabriqué d'objet. Et pourtant, il est resté. Donc, c'est sûrement que ses cours, ce qu'il disait, ce qu'il essayait de faire à la fois pratiquer et penser, ça devait avoir un rapport avec ce que Bauhaus cherchait, à savoir mettre au monde des objets étonnants, à la suite d'essais, à la suite de...
En effet, après, je veux pas aussi prendre toute la parole, mais ça me semble assez lié aussi ce dont on vient de parler avec quand tu parlais de branding.
Oui.
Parce que il y a peut-être aussi cette critique de comment dire, on peut parler de monotonie et peut-être de une volonté de capter aussi l'attention, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire quelque chose qui vient le branding, ça peut être ça aussi, ça peut être pas seulement créer de la monotonie, mais peut-être concentrer les points de vue, quoi, c'est-à-dire de et peut-être ça passe par aussi des choses qui peuvent être faussement étonnantes. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est ce que peut-être, dans mes souvenirs, je crois avoir lu ça dans Hotel Eicher, quand il justement critique un petit peu le Bauhaus des fois sur ce point-là, en disant que faut faire un peu attention au style, peut-être, qui peut peut-être pour réfléchir, oui, voilà, sur ce point-là, quoi, sur l'étonnement.
En fait, il y a une expression qui me vient en écoutant ce que tu viens de dire, c'est le branding, il en met plein la vue.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et ce que j'ai essayé de dire ce soir, avec l'écart, enfin toutes ces choses, un objet étonnant ne nous en met jamais plein la vue. Je ne pense pas. Parce que d'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait être distrait? Comment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de distrayant si on en a plein la vue? Il y a quelque chose dans l'objet étonnant qui se retire de l'immédiate perception. Plutôt de l'immédiate compréhension de la perception. Un de mes exemples, je crois que j'ai déjà évoqué avec vous, ça peut être soit une maison, soit un entrepôt, il y a deux cas, que je connais, il y en a sûrement évidemment d'autres, de Herzog et de Meuron, les architectes, plutôt période d'avant les stades olympiques, donc une architecture plus modeste. Où il y a, bon, je pense à une maison, mais aussi c'est la même chose pour l'entrepôt que j'ai en tête. Je vois ça, et donc compréhension, conceptualisation, enfin au sens de Kant, l'entendement, j'entends de quoi il s'agit. C'est une maison, c'est un entrepôt, voilà. Et étonnement, hésitation, il manque la porte. Je ne vois pas la porte. Une maison sans porte, c'est pas une maison, parce que la porte, c'est ce qui permet à la maison d'être accueillante. Eh ben, c'est une maison et je ne vois pas la porte. Manque à ma vue quelque chose. Voilà. Ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est important que tout ne soit pas donné. Et dans l'écart dont j'essaye de parler, évidemment, l'entre-deux, il ne sera jamais donné. Par définition, ce qui se tient au sein de l'articulation, dans le lieu de l'articulation, c'est rien. Ça ne peut pas être donné. Je ne sais pas si je suis clair, mais il y a quelque chose qui fait jouer, un manque, un vide, je ne sais pas comment vous dire ça. Je chercherai les mots d'ici la prochaine fois, les mots plus précis.
Oui, la dernière séance, vous avez dit plein de choses et je pensais que tous ces propos étaient contre une grande tendance d'aujourd'hui qui met l'accent sur la surveillance, sur soi-même, etc., etc. Donc, en vous écoutant aujourd'hui, je pensais que cette tendance, qui pour moi à la base se trouve Michel Foucault, là il y a quelque chose, un intérêt pour le contrôle. Quoi. Et la dernière séance, vous avez parlé de distraction, tout le contraire du contrôle, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, de manière analogue, je pense à un autre penseur, que c'est Gilles Deleuze. Parce que vous avez parlé aujourd'hui de sentiment. Et Gilles Deleuze aussi, avec toute la force qu'il a partout dans la planète, et surtout dans le domaine du design et de l'architecture, aujourd'hui on parle de l'architecture plutôt de la sensation, pas du sentiment. Donc, avec la sensation, je me souviens bien d'un bouquin de Deleuze où il fait un rapport entre concept, affect, percept. Même aujourd'hui, vous avez parlé de percept par rapport à Kant, et vous avez dit que bon, Kant, dans ce truc de la citation schématique, il va plus loin du percept ou quelque chose comme ça. Mais je me pose la question, ça c'est une tendance aussi, la sensation dans l'architecture, le design, et à la base se trouve pas Michel Foucault, mais Gilles Deleuze. Ça c'est clair partout dans la planète, et on dit aujourd'hui que bon, il faut faire architecture pour la sensation, architecture ou design sensuel, etc., etc. Donc, en quelque sorte, si la dernière séance, pour moi, vous êtes contre la tendance du contrôle du côté Michel Foucault, aujourd'hui vous serez contre la tendance du conceptualisation de la sensation du côté de Gilles Deleuze. Et je me souviens bien que dans le bouquin de Gilles Deleuze, la base théorique de Gilles Deleuze, bien sûr qu'il étudie Kant et tout ça aussi, c'est plutôt David Hume, que c'est un grand philosophe de la sensation, et aussi Spinoza. Spinoza, quand il parle dans plein de bouquins de Gilles Deleuze, il reprend Spinoza, il parle aussi de la sensation. Mais les sentiments, ce n'est pas un truc proche de l'Est. Et je ne sais pas si je me trompe dans ce que je veux dire, mais il me semble que la sensation, c'est pour Gilles Deleuze quelque chose qu'il peut rapporter au savoir, à la connaissance. Par contre, vous serez dans le domaine du sentiment. Quoi. Oui, donc ma question, c'est pourquoi? Parce que dans C'est-à-dire, à la base de vos propos, vous êtes en contre de plus grands penseurs, on dit ça à l'extérieur, non? Je sais qu'en France, peut-être, c'est pas trop, ils ne sont pas trop reconnus, mais partout dans la planète, surtout aux États-Unis, Foucault et Jules Deleuze sont les mecs forts, quoi. Donc oui, je crois que vos propos sont super intéressants, surtout pour ça, parce que sont tous les contraires de ce que la tradition philosophique récente de la France dit, quoi. Donc, ma question, c'est pourquoi?
Je vais vous répondre d'abord que ce sur quoi vous mettez le doigt explique pourquoi j'ai beaucoup de mal à être admis parmi les philosophes français. Parce qu'en effet, il y a quelque chose qui m'a toujours gêné chez Foucault et chez Deleuze. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai cherché, mais c'est comme ça. J'ai envie de vous répondre que, en effet, c'est pas deleuzien du tout, mais que je suis pas deleuzien parce qu'en fait je suis idéaliste et que Deleuze ne l'était pas. Voilà. On peut dire je suis kantien dans ce sens-là puisque j'en tiens pour le fait que pour dire que les idéaux, c'est les mêmes mots, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Et j'ai un peu tendance à penser, enfin j'ai du mal quand je lis Deleuze, en même temps, ces derniers temps, j'ai trouvé plein de textes de Deleuze que j'arrive à lire autrement que je ne les lisais. Quand j'étais plus jeune. Mais en tout cas, certainement, l'intérêt pour le sentiment plutôt que la sensation, ben c'est, je l'ai explicité ce soir, c'est que c'est lié à une place que je n'arrive pas à évacuer. Qui est la place laissée aux idées. Voilà. Laissée aux idées. Alors, deuxièmement, c'est sûr, sur le plan philosophique, ça suppose une explication avec la notion de chaîne. Comment ça marche les chaînes, dans quel sens ça marche. Alors, c'est très compliqué parce que les schèmes, ça veut dire Kant, puis Bergson, puis Simondon, puis Deleuze. Ça commence à faire beaucoup de se coltiner tout ça pour un seul homme. Donc, je ne sais pas trop. J'avais commencé un séminaire quand j'étais encore en poste à Paris 1, mais je ne l'ai pas mené jusqu'au bout pour des raisons essentiellement de santé. Et peut-être aussi parce que finalement... j'étais très hésitant et puis j'étais pas sûr d'avoir raison d'embarquer des étudiants là-dedans. J'hésitais beaucoup, mais enfin c'était quand même ça. J'avais commencé à lire Kant, la critique de la faculté de juger. Je voulais remonter lire la critique de la raison pure pour chercher si on peut comprendre la notion de schème autrement que ne fait finalement Deleuze. Mais le travail n'a pas été abouti. En revanche, pour ce qui concerne la relation à Hume, à la sensation, etc., je peux quand même dire une chose, parce que ça, je l'ai écrit plutôt pour faire l'accord, c'est que, comment dire, il me semble difficile sur le plan intellectuel de revenir à Hume sans s'expliquer avec la critique que Kant lui-même a formulée de Hume, sans se souvenir que Kant, c'est d'abord une réponse à Hume. Donc, on peut imaginer que la réponse de Kant à Hume n'est pas satisfaisante, mais il faut le montrer. Et si on le montre, alors on peut dire revenons à Hume. Mais revenir à Hume sans démonter la réponse que Kant a fait à Hume, ça me semble quelque chose qui ne va pas sur le plan intellectuel, mais on n'était pas nombreux dans ma génération à être sur cette position-là. C'est-à-dire, si Hilbert, il lisait quand même, pas qu'un peu, mais Latour, non, par exemple. Latour a écrit des textes, en gros, il dit ne perdez pas votre temps. Et sur le plan politique, et sur le plan de la théorie des sciences, et sur le plan esthétique, je suis pas sûr que Kant soit pas un auteur qu'on ferait bien de méditer encore. Voilà. Est-ce que je vous réponds vraiment? Je suis d'accord pour dire que j'essaye de dire quelque chose qui n'ignore pas Foucault, qui n'ignore pas Deleuze, mais qui n'est pas foucauldien et qui n'est pas deleuzien, je m'en rends compte. Oui. Sans que pour autant ça soit une critique explicite de ces auteurs-là.
Oui. Oui, ce que je trouve, oui, c'est que on est très envahi par ces pensées encore, par Foucault et Deleuze. On encore pense trop avec la pensée ou à travers la pensée d'eux, quoi. Que j'aime bien, mais oui, ça serait sympa que quelques personnes vous écoutent aussi, quoi.
Oui. Après, il y a aussi ces éléments, en fait, finalement, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas comment le dire. Il y a quand même des choses ont été déposées dans le monde, dont des textes qu'on peut toujours ignorer, bien sûr, mais si on ne les ignore pas, ça met peut-être en difficulté justement des pensées comme celles de Foucault ou de Deleuze. Autrement dit, comment, si on est deleuzien ou foucauldien, on pense l'architecture des modernes? Ce qui s'est écrit au sein du Bauhaus, enfin tous les textes auxquels je me suis intéressé. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, j'arrive pas à oublier ça. J'arrive pas à passer à côté de ça. Et je pense que ça joue un rôle, la compréhension ou la mécompréhension de la modernité artistique, à mon avis, c'est quelque chose qui est décisif. Donc, il faudrait se poser cette question-là. Il faudrait que de jeunes chercheurs en philosophie se posent cette question-là. Est-ce qu'il y a, quelle est la compréhension de la modernité artistique chez des auteurs comme Foucault et Deleuze, ou de l'architecture?
Oui, par exemple,
je sais que vous
canon architecte, que oui, dans le domaine de l'architecture, par exemple, la théorie de l'architecture, et je connais bien le programme de Columbia University, c'est pas un truc qu'en Amérique du Sud, qu'en Latam, mais aussi aux États-Unis. La théorie de l'architecture, c'est plutôt quelque chose qui ne lit pas, les théoriciens ne lisent pas les architectes modernes. Donc, ça, c'est étonnant parce que vos sources sont les architectes, les mecs qui ont fait l'architecture. Et la théorie de l'architecture, c'est plutôt des théoriciens qui jamais ont fait quelque chose dans sa vie. Quoi. Ces mecs, ils ne peuvent pas faire un mur, des trucs comme ça. Et si on met du côté de ces problèmes, que aussi les sources de la théorie de l'architecture, c'est-à-dire de la pensée de l'architecture sur elle-même, c'est Deleuze et Foucault, on ressent aussi, on a l'impression que, et j'aime bien ce mec, non? Jacques Clarsa, quoi. Mais on a l'impression que tout le discours que vous faites à propos du fer, par exemple, à propos de la technique, à propos de matériaux, à propos de... plein de trucs, ça reste à côté. Donc, pour nous, les architectes, c'est une pensée qui n'a pas un rapport avec la matérialité avec le fer, avec, etc. Que c'est le truc qui ont fait le plus, quoi. Parce que les architectes voudraient, je ne sais pas, devenir philosophes. Mais ça, c'est bizarre, quoi. Parce qu'on fait des choses.
Oui.
Oui, oui, c'était ça, quoi. Bon, pero, merci beaucoup.
Bah, ce, juste un mot sur ce que vous venez de dire, je peux rassembler ça à ma façon en disant deux choses. C'était dans la petite introduction que j'ai faite sur au passage, je l'ai dit, la distinction entre opération et œuvre. C'est-à-dire que aujourd'hui, la façon dominante de penser, y compris dans le monde de l'art, c'est qu'au fond, même quand on dit œuvre, quand le mot est quand même prononcé, la notion qui tourne dans les esprits, c'est une opération. Voilà. On mène des opérations. Et donc, ça secondarise dans l'esprit, dans la pensée, ce qui n'est pas une opération, au sens, par exemple, une opération stratégique, une opération militaire, ce qui n'est pas une opération, le fait de faire quelque chose qui va être posé là et qui va rester, je ne sais pas si c'est une maison, même une petite maison préfabriquée, elle va rester 30, 40 ou 50 ans et les gens vont y habiter. Et ça, ce n'est pas une opération, ça. C'est poser quelque chose dans le monde qui n'est pas une opération seulement stratégique, en tout cas, s'il y a quelque chose de stratégique derrière. Et ça, il est bien entendu dans ce qu'on appelle, ça va être mon deuxième point, j'y viens, la postmodernité, que les œuvres, c'est plus essentiel, que ce qui compte, ce sont les opérations qu'on mène, voilà, le sens. Eh bien, bon, alors après, pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose de très, très important sur le plan intellectuel, qui est après la Seconde Guerre mondiale. En gros, l'état d'épuisement, la catastrophe que ça a été, ça a conduit à quelque chose comme on efface tout et on n'y pense plus. C'est-à-dire, et on a jamais pensé. Moi, je me rappelle, c'était une discussion que j'avais eue avec Philippe Lacoulavarte, qui me demandait si il voulait faire un. On prend une année et puis on réfléchit. Alors, quelle année on prendrait franchement, on peut dire prendre l'année 1911. Pourquoi? Bah, parce qu'en 1911, il y a la publication du texte de Kandinsky, etc. Puis on étudie cette année-là. Et en fait, en poursuivant, je mettais cette suggestion de Lacoulavarte, je m'étais dit, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les avant-guerres. Pas les après-guerres, mais les avant-guerres. C'est-à-dire comprendre comment il est possible qu'on en arrive là. À mener des opérations qui détruisent le monde. Mais je pense que la pensée ou l'état qui a conduit à ce qu'on appelle la French Theory, etc., c'est plutôt des pensées d'après-guerre. On essaye de... On pense plus, disons, à la période 1910-1945. Et là, vous voyez arriver, c'est là qu'il y a une réécriture, commence à mon avis la réécriture de l'histoire du design, la réécriture de l'histoire du design, hein, qui oublie ou qui renomme. C'est là que les mots fonctionnalistes qui n'avaient jamais existé commencent à faire fleurir. C'est là qu'on attaque la modernité, mais en oubliant le sens du mot que je viens de rappeler ce soir, etc., etc. Bon. Il s'est passé là quelque chose qui a conduit à qui nous aura conduit à ignorer ce qu'ont tenté un certain nombre de ceux qui nous ont précédés sous le nom de modernité. Et après, ça continue parce que quand on dit, je me rappelle, je me suis disputé, enfin disputé, en tout cas, ça a été l'objet d'une discussion avec Bernard Sigler sur la notion même de modernité, ou la tour, etc. C'est-à-dire pour eux, modernité, c'est le sens, le fait que, ce que je vous ai dit ce soir, c'est-à-dire le fait que ça soit un mot qui vient de Baudelaire, c'est parfaitement secondaire pour eux. Donc, on a pris un mot, on l'a complètement sorti de sa source, et c'est comme si ce n'était pas un problème intellectuel. Voilà. Ça me gêne beaucoup. Ça m'aura toujours gêné. Et donc, j'aurais passé beaucoup de temps à essayer de faire regarder mes contemporains ou lire, regarder ce qui s'est passé sous ce nom-là. Voilà. Est-ce que je vous ai répondu ?
Oui.
Bon.
Merci.
Ben, si vous voulez, peut-être maintenant, on va écouter le président de la République. Moi, je veux que je coupe l'enregistrement avant de dire des bêtises.
Nous, on reste.